Vous écoutez On lit pour vous.
Interdiction du port de signes religieux en milieu scolaire. La FTQ prévient que de nombreux emplois seront perdus. Un texte de Jennifer Gravel, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info. La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, FTQ, demande jeudi à la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, d'intervenir pour stopper l'entrée en vigueur de la loi sur l'interdiction du port de signes religieux dans le réseau de l'éducation, estimant que cette décision se traduira par une perte d'emploi pour des centaines de femmes. L'organisation syndicale a des craintes pour différents corps d'emploi, dont le personnel en service de garde, les techniciennes en éducation spécialisée, les préposés aux élèves handicapés, les secrétaires d'école, etc. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que les congédiements à venir visent principalement les femmes, souvent diplômées et surqualifiées, a déclaré dans un communiqué la présidente de la FTQ, Magali Picard. La majorité des parents québécois à l'aise avec les signes religieux en garderie. Un sondage léger paru mardi et commandé par l'Association des garderies privées du Québec, AGPQ, démontre qu'une majorité de parents, 68%, au Québec, sont à l'aise qu'une personne portant un signe religieux, à visage découvert, s'occupe de leur enfant. La FTQ affirme que des membres du personnel de soutien de différents centres de services scolaires ont reçu des lettres de leur administration les menaçant de perdre leur emploi s'ils refusaient de ne plus porter tout objet s'apparentant à un signe religieux. Magali Picard estime que cette décision ne peut qu'avoir des effets négatifs et considérables sur des milliers d'élèves, de parents et le personnel de ces établissements. Nous sommes déjà en pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, nous risquons des bris de service, a-t-elle déploré. Si la loi sur l'interdiction du port de signes religieux comporte une clause de droit acquis, la FTQ l'estime arbitraire. Ce sont les ressources humaines des centres de services scolaires qui auront à juger de la recevabilité ou non de la demande, a expliqué Magali Picard. Le Québec doit rester une société accueillante et ouverte sur le monde, a conclu la présidente de la FTQ, qui représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses. Notons que le sort de la loi 21 sur la laïcité de l'État et, surtout, de la disposition de dérogation que le gouvernement de François Legault a utilisée pour la soustraire à l'exercice de certains droits est maintenant entre les mains de la Cour suprême. La cause a été prise en délibéré. Il serait étonnant d'avoir une décision avant les élections provinciales au mois d'octobre, la Cour ayant plusieurs fois exprimé sa réticence à intervenir dans l'arène politique. C'était « Interdiction du port de signes religieux en milieu scolaire. La FTQ prévient que de nombreux emplois seront perdus. » Un texte de Jennifer Gravel, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info.
Les libéraux fédéraux veulent interdire l'IA et les médias sociaux au moins de 16 ans. Un texte de Boris Proulx, paru le 11 avril 2026 dans Le Devoir. Le gouvernement du Canada devrait interdire aux grandes plateformes numériques de servir les internautes trop jeunes de l'avis de militants libéraux fédéraux réunis lors de leur congrès national à Montréal. Deux motions à ce sujet ont été adoptées, mais non sans un vif débat. Le premier ministre, Mark Carney, est ainsi officiellement invité par son parti à élaborer de nouvelles règles pour restreindre l'accès des enfants de moins de 16 ans aux réseaux sociaux numériques et aux robots conversationnels alimentés par l'intelligence artificielle. La preuve montre un choix intentionnel des plateformes de cibler les enfants et, pour beaucoup trop de jeunes Canadiens, cela vient aux dépens de leur santé mentale, du développement de leur cerveau et de leur sécurité personnelle, a déclaré la députée d'Outremont, Rachel Bendayan. Celle-ci portait l'une de ses résolutions qui propose de créer un nouvel organisme fédéral chargé de contrôler les plateformes afin de s'assurer qu'elles vérifient l'âge de leurs usagers. Une autre motion, proposée par des militants québécois, se montrait critique envers certaines plateformes d'intelligence artificielle, accusé de pousser des jeunes à participer à des conversations à caractère sexuel, voire de les exposer à des contenus à risque. Débat sur l'IA. Dans les deux cas, des militants ont mis en garde leur parti contre ces idées. Une militante a indiqué utiliser l'intelligence artificielle dans son quotidien, tandis qu'un autre participant a soulevé les enjeux liés à la gestion des données personnelles, notamment si des plateformes étrangères devaient être impliquées dans la vérification de l'âge. Une experte a également évoqué l'exemple de l'Australie, où une loi interdisant les réseaux sociaux aux jeunes a pu être contournée par certains utilisateurs. Ces orientations ont néanmoins été adoptées par la majorité des militants présents lors de l'Assemblée. Toujours pas de stratégie. Les délégués ont aussi demandé au chef du gouvernement de faire adopter une loi sur l'intelligence artificielle afin d'encadrer ce secteur à l'image de ce qui se fait en Europe. Ils souhaitent également la tenue d'une enquête sur la désinformation. Même si le Parti libéral détient le pouvoir à Ottawa, ses propositions ne lient pas formellement son chef. Le Canada s'est doté d'un ministre de l'intelligence artificielle, Ivan Solomon, sans qu'une stratégie nationale en la matière ait été présentée à ce jour. Son ministère a toutefois utilisé l'intelligence artificielle pour compiler des consultations publiques sur ce sujet. Finalement, pas de désaveu. Des militants ont également défendu l'idée d'annuler certaines lois provinciales utilisant la disposition de dérogation. Cette proposition a été rejetée, tout comme une autre visant à réformer le mode de scrutin. Des élus ont jugé ces approches incompatibles avec les principes du fédéralisme canadien ou les conventions établies au fil des années. C'était « Les libéraux fédéraux veulent interdire l'IA et les médias sociaux aux moins de 16 ans », un texte de Boris Proulx, paru le 11 avril 2026 dans Le Devoir.
Oui, tu es cet homme. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 4 avril 2026 dans La Presse. Mon titre paraphrase l'affirmation régulièrement faite par M. Rozon pendant son procès très médiatisé. Il a nié les allégations le visant en répétant « Je ne suis pas cet homme ». Il a aussi dans certains cas parlé de relations consenties et même de complots contre sa personne. Mais son blabla n'a pas réussi à convaincre la juge Chantal Tremblay. Même la très malaisante sortie de l'ancien premier ministre Pierre-Marc Johnson en sa faveur n'a pas empêché la Cour de le qualifier de prédateur sexuel. Maintenant, on sait qu'il est cet homme que décrivent toutes ces femmes et il portera ce verdict sur le front jusqu'à la fin de ses jours. Preuve que le mensonge peut faire des années de route puis voir la vérité le rattraper en quelques heures. À force de vouloir semer à tout vent une graine non sollicitée, il s'est fait pendre par le pénis sur la place publique. Sa faute est reconnue, mais a laissé des traces indélébiles dans le corps de toutes ses victimes. Souhaitons à toutes ces femmes de se reconstruire et de se projeter dans un avenir plus ensoleillé. Un corps violé est une maison dont on a forcé la porte et où le propriétaire ne se sent plus chez lui. Ainsi parlait l'autrice sénégalaise Fatou Diomé. Seul un humain sans le moindre neurone d'empathie peut orchestrer une telle violence et continuer de sourire et de courir les événements mondains comme le faisait Gilbert Rozon. Quand le pouvoir, l'ego et le vice amènent une personne à sacrifier sans remords l'avenir d'une autre personne pour satisfaire un désir instantané, il mérite une sévère condamnation. En un instant, le violeur a fait du présent de sa victime un passé sans futur. Cette autre citation de Fatou Diomé décrit mieux combien l'agresseur contamine de façon durable la capacité des victimes à se projeter dans l'avenir. Mis en face de son passé de prédateur, M. Rozon a parlé de complot et même de poursuites motivées en partie par l'argent. Sa défense a aussi essayé de le présenter comme une cible de prédilection qu'on voulait faire tomber dans le contexte du mouvement slash MeToo. C'est une des affirmations les plus surréelles entendues pendant ce procès. Si le seul désir d'abattre un homme puissant était la motivation première de ces femmes, sur quelle logique repose le choix de Gilbert Rozon comme cobaye? Il y a tellement de gens plus riches et plus puissants que lui au Québec qui auraient fait de plus énormes proies à terrasser. Est-ce qu'il y a un seul esprit sensé qui peut croire qu'on a échafaudé un complot juste pour le détruire? Non. Cette histoire est le résultat d'une accumulation de drames qui ont culminé en un courage collectif tardif, l'expression de vérité longtemps cachée sous une montagne de souffrances vécues dans le silence. Quand 9 voix défilent à la barre pour raconter les mêmes meurtrissures de l'âme, l'écho de leurs témoignages raconte des faits vécus, des histoires que la justice a fini par entendre et comprendre. Mais au-delà de la condamnation de M. Rozon, cette décision du tribunal tombe à un moment où la violence faite aux femmes, le masculinisme et la misogynie sous toutes ses formes font régulièrement les manchettes. La semaine passée, la Direction régionale de santé publique de Montréal a tiré une sonnette d'alarme sur cette brutalité physique ou verbale envers les jeunes filles dans les écoles. Lorsque 38% des adolescentes affirment en avoir déjà été victimes, c'est qu'on a un problème qu'il est urgent de tacler avec fermeté. Si je reviens sur l'histoire de M. Rozon, c'est que j'espère secrètement que ce gros problème sera au cœur des plateformes électorales dans la prochaine campagne. La misogynie, la violence envers les minorités sexuelles et l'intimidation numérique sont redevenues si préoccupantes qu'elles méritent un intérêt particulier de la part des législateurs. J'applaudirai le parti politique qui mettra ce gros problème au cœur de sa vision sociétale du Québec. Posez la question autour de vous et vous verrez que ce ne sont pas les familles vivant de véritables drames avec cette forme de brutalité et d'exclusion amplifiée par les médias sociaux qui manquent. Or, s'il y a une chose qui ne fait absolument aucun doute, c'est qu'on ne réglera pas cette forme de violence seulement avec des discussions dans le bureau du directeur ou des campagnes de sensibilisation où les mots « victime » et « complice » sont ressassés ad nauseam. La seule façon de freiner cette tendance délétère est de faire payer sévèrement les coupables. Car c'est cette violence banalisée chez les jeunes qui fertilise les terrains où poussent des prédateurs du calibre de Gilbert Rozon. Pensez ici à ce jeune homme qu'on a vu cette semaine dans une vidéo traiter impunément une policière avec une misogynie des plus crasses. Si l'on permet à cet énergumène de dégainer aussi violemment sa haine des femmes, où va notre société? Fini les carottes, l'heure du bâton a sonné. C'était « Oui, tu es cet homme », un texte de Boucar Diouf, paru le 4 avril 2026 dans la presse.
Des semaines, voire des mois d'attente pour parler à un enquêteur après avoir rapporté un viol. Un texte de Stéphanie Marin paru le 9 avril 2026 dans Le Devoir. Il pourrait s'écouler des semaines, voire des mois avant qu'un enquêteur de police ne la contacte. Voilà ce que s'est fait dire Mia. Nous utilisons un nom d'emprunt pour protéger son identité. Après qu'elle eut rapporté avoir été agressée sexuellement à Montréal. Elle ne serait pas la seule dans cette situation, selon un organisme qui œuvre à la prévention des violences à caractère sexuel. Mia a appelé la police dès le lendemain de son agression. Une agente du service de police de la ville de Montréal, SPVM, est venue la chercher pour l'accompagner à l'hôpital afin d'effectuer l'examen médico-légal visant à recueillir des preuves biologiques du viol dont elle se dit victime. Son corps garde des ecchymoses de l'agression, rapporte la jeune femme de 24 ans, qui dit être très anxieuse. Mia veut savoir ce qui va se passer par la suite. La policière lui explique qu'un enquêteur sera éventuellement affecté à son dossier, mais on lui dit que cela pourrait prendre du temps, des semaines même,
rapporte la jeune femme en entrevue avec Le Devoir. Ce délai l'inquiète terriblement car elle a peur de l'individu qui l'a agressée chez elle et qui sait donc où elle habite, confie-t-elle en entrevue. Elle sent le besoin d'être protégée. C'est évidemment la police qui déterminera, au terme de son enquête, si elle recommande ou non le dépôt d'accusation au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et c'est ce dernier qui prendra la décision. Mais pour elle, cette période d'attente a des conséquences. Comme sa plainte n'a pas encore été analysée et n'a donc pas encore pu être retenue, le jeune homme de 23 ans ne peut avoir été soumis à des conditions comme une interdiction de l'approcher et d'entrer en contact avec elle. Mia dit que le CAVAC, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, l'a aidé et lui a suggéré de se rendre au palais de justice afin de demander une ordonnance de protection, un 810 dans le jargon judiciaire. La procédure permet d'imposer des interdictions de contact sans que des procédures criminelles soient intentées contre un individu. Mais sa démarche échoue, dit-elle. Elle ne connaît pas l'adresse de cet homme, rencontré en ligne. Je me sens comme si je n'avais aucune ressource parce qu'il n'y a rien qui marche, si je ne peux appeler un enquêteur. Je suis prise dans l'angoisse constante. Après l'agression alléguée, lorsqu'il lui envoie des messages sur l'application qu'ils utilisaient pour bavarder, elle lui signale qu'elle ne veut plus de contact et le bloque. Il tente alors de la contacter sur un autre réseau social. « J'ai eu vraiment peur. » Elle contacte le 911 à nouveau, comme on lui avait recommandé de faire. Quand un policier arrive finalement chez elle, il lui a dit « Je ne sais pas quoi dire. Il faut attendre l'enquêteur », rapporte Mia. Ordre de priorité. Plus de 2 semaines après l'agression alléguée, elle est toujours sans nouvelles et n'a pas l'impression d'être prise au sérieux. Le Devoir a contacté le SPVM pour comprendre ce qui se passe, avec le numéro de la plainte de Mia. Une porte-parole a indiqué que la force policière ne commente pas les dossiers individuels, sauf exception, et ne confirme jamais si une enquête est en cours. De tels délais d'attente sont-ils habituels? Lorsqu'invité à répondre à cette question, le SPVM a indiqué que l'assignation d'un enquêteur à un dossier spécifique est faite par un contrôleur selon un ordre de priorité qui dépend de plusieurs facteurs, dont ceux-ci. La présence de victimes mineures, des événements survenus en milieu institutionnel, des comportements de prédation, un risque de récidive ou le contexte général de l'événement. Lorsqu'un événement est en cours ou qu'un risque de récidive est jugé imminent, un enquêteur peut être assigné immédiatement au dossier et entrer directement en contact avec la victime, y compris pour la prise de sa déclaration. Autrement, la section des agressions sexuelles vise un premier contact avec la victime dans un délai de 2 à 3 jours suivant le dépôt de la plainte, bien que ce délai puisse être prolongé lors de périodes où les dossiers affluent, précise le SPVM dans un courriel. Mia a été contactée 1 semaine après le dépôt de sa plainte. La jeune femme rapporte que la contrôleuse lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas lui dire quand elle serait contactée par un enquêteur, mais que cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, car le service de police a d'autres cas à traiter. Elle lui a recommandé de rappeler la police si l'individu la contacte à nouveau. Elle pourrait ajouter le harcèlement à la plainte de la jeune femme. Mia indique que les policiers n'ont pas encore pris sa déclaration écrite relatant les événements ni regardé les photos de ses marques, pas plus que les messages échangés entre elle et le jeune homme. « C'est l'enquêteur qui va s'occuper de ces démarches », s'est-elle fait dire. Pas la seule. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on nous rapporte des délais d'attente de plusieurs mois, voire même 1 an, avant qu'un enquêteur ne soit affecté à un dossier, a déclaré Alexandrine B. Lamoureux, cofondatrice de l'organisme Saine et Sauve. De tels délais de traitement des dossiers lui ont été confiés par des victimes d'agressions sexuelles rencontrés dans le cadre des activités de prévention de l'organisme sur le terrain, lors d'événements festifs. Les victimes comprennent des raisons données pour expliquer ces délais qu'ils sont une conséquence du manque d'effectifs du SPVM. Les enquêteurs ont énormément de dossiers à traiter, souligne Mme Lamoureux. Ils font le meilleur travail possible avec les ressources dont ils disposent, estime-t-elle. Contacté à ce sujet, le CAVAC a indiqué que de tels délais ne sont pas fréquemment rapportés par les victimes. Quant au Centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles de Montréal, CAVAS, il n'a pas voulu commenter. En 2024, plus de 13 000 personnes ont rapporté aux diverses forces policières du Québec avoir subi une agression sexuelle. Il s'agit d'une hausse de 129 % en 20 ans, rapporte l'Institut de la statistique du Québec. Comme société, si on veut que les victimes dénoncent, il faut qu'on investisse, fait valoir Mme Lamoureux. Participant aux rencontres Action Jeunesse à l'Assemblée nationale du Québec en février dernier, son organisme a justement porté cette demande aux élus, parmi d'autres. Réduire les délais de prise en charge des dossiers d'agression sexuelle par les enquêteurs. C'était des semaines, voire des mois d'attente pour parler à un enquêteur après avoir rapporté un viol. Un texte de Stéphanie Marin paru le 9 avril 2026 dans Le Devoir.
L'exemple des parents est crucial. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 10 avril 2026 dans la presse. Les enfants qui, dès l'âge de 2,5 ans, participent quotidiennement à des jeux, des activités ou des sports avec un parent, ou qui passent à cet âge moins d'une heure par jour devant un écran, sont significativement plus actifs à l'adolescence. C'est ce que démontre une nouvelle étude québécoise qui serait la première enquête longitudinale à témoigner de l'impact à long terme des habitudes de vie acquises à la petite enfance et surtout de l'importance de l'exemple donné par les parents. Ça met l'emphase sur le fait que la petite enfance est une période tellement importante qui vient créer des habitudes de vie qui vont vraiment perdurer dans le temps, a souligné l'auteur principal de l'étude, Keanu Charandian, de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. On démontre qu'il y a vraiment un effet à long terme, 10 ans plus tard, sur le comportement des enfants. L'étude s'appuie sur les données de 1668 enfants. 849 garçons et 819 filles, issus de l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, une cohorte populationnelle représentative née en 1997-1998, coordonnée par l'Institut de la statistique du Québec, a-t-on expliqué par voie de communiqué. Les parents ont fourni des informations sur la fréquence des loisirs actifs partagés avec leur enfant à l'âge de 2,5 ans. Le temps quotidien passé devant les écrans, télévision, cassette vidéo, ordinateur et jeux vidéo, et la durée moyenne de sommeil, y compris les siestes. Ces mêmes enfants ont ensuite été interrogés à l'âge de 12 ans. Sur leurs habitudes de jeux extérieurs et leur niveau d'activité physique durant leurs loisirs. Les chercheurs ont aussi tenu compte de facteurs comme le tempérament de l'enfant, l'indice de masse corporelle, les capacités neurocognitives, les symptômes dépressifs maternels, le niveau de scolarité ou encore les revenus familiaux qui pourraient influencer les résultats. Résultat: chaque bonne habitude de mouvement supplémentaire, à savoir le jeu actif, un temps d'écran limité et un sommeil suffisant, à 2,5 ans, correspondait à environ 5 minutes de jeux extérieurs de plus par jour à 12 ans, aussi bien chez les garçons que chez les filles, a-t-on révélé. La participation précoce de la famille à des loisirs actifs avec les tout-petits et la limitation du temps passé devant les écrans laissaient présager des habitudes de vie plus actives au début de l'adolescence, au-delà des facteurs individuels ou familiaux préexistants, rapportent ainsi les auteurs. La sensibilisation des parents et le respect des recommandations en matière d'activité physique chez les jeunes enfants, ajoute-t-il, favorise une croissance et un développement sain, contribuant ainsi au bien-être à long terme. Les parents sont vraiment l'agent de socialisation principal à la petite enfance, a rappelé Mme Aranzian. Ils ont une importance majeure pour ancrer les habitudes de vie de leurs enfants. Ce sont les personnes avec qui les enfants vont passer le plus de temps et ils ont un rôle important à jouer pour former leur comportement. Les données de l'étude démontrent d'ailleurs que moins d'un enfant sur 10 respecte naturellement les recommandations quotidiennes en matière de jeux actifs, de temps d'écran limité et de sommeil suffisant. L'Organisation mondiale de la santé estime de son côté que 80% des adolescents de la planète ne bougent pas suffisamment. En ce qui concerne le temps d'écran, a dit Mme Aranzian, si les parents vont réguler le temps d'écran à la maison, ils vont aussi montrer le comportement aux enfants. Donc, un parent qui est tout le temps sur son téléphone montre à son enfant que les écrans, c'est correct, a-t-elle précisé. Ce n'est pas d'hier qu'on sait que les habitudes de vie acquises à la petite enfance auront des répercussions sur le mode de vie de l'adolescent et du jeune adulte. La plupart des études dont on disposait jusqu'à présent étaient toutefois des enquêtes transversales qui capturaient la situation à un moment précis dans le temps. Cette nouvelle étude longitudinale a plutôt suivi les enfants pendant plus de 10 ans, de leur petite enfance jusqu'à l'aube de leur adolescence. Cela permet de quantifier avec confiance, et pour la première fois, assure-t-on, que les habitudes de mouvement adoptées dès l'âge de 2,5 ans ont des répercussions mesurables une décennie plus tard. C'est important à la petite enfance de mettre déjà en place une bonne structure et de bonnes habitudes pour les enfants, parce que ça rend les interventions et la prévention plus faciles plus tard dans la vie, a conclu Mme Aranzian. Surtout, quand on parle d'activité physique et qu'on sait que l'inactivité est une des causes de mortalité les plus élevées dans le monde. C'était « L'exemple des parents est crucial », un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 10 avril 2026 dans La Presse.